Section 12. Problème d'adaptation. Chapitre 59. La formation du caractère. Les actes influent sur le caractère. Chaque acte de notre vie, même s'il est sans grande importance, exerce son influence sur la formation de notre caractère. Un bon caractère est plus précieux que toutes les richesses du monde. Travailler à sa formation est l'œuvre la plus noble dans laquelle les hommes puissent s'engager. L'esprit est un jardin dont le caractère est le fruit, toutes les facultés humaines sont des ouvrières qui bâtissent pour le présent, et pour l'éternité. Jour après jour, la structure s'édifie, sans que celui qui les possède s'en rende compte. C'est une construction qui doit servir ou bien d'avertissement à cause de sa difformité, ou bien qui se présentera comme un édifice que Dieu et les anges admireront à cause de sa ressemblance avec le divin modèle. Les facultés mentales et morales que Dieu donne ne constituent pas le caractère. Ce sont des talents que nous devons développer et qui, s'ils le sont comme il convient, formeront un caractère accompli. Un homme a beau tenir une précieuse semence entre ses mains, celle-ci ne constitue pas un verger. Avant qu'elle devienne un arbre, elle doit être plantée. L'esprit est le jardin. Le caractère en est le fruit. Dieu nous a donné des facultés à cultiver et à développer. Pour cultiver ces facultés de façon harmonieuse et pour qu'elles produisent un caractère de valeur, nous avons une œuvre à faire que personne d'autre que nous ne peut accomplir. Le prix à payer, le Christ n'a jamais déclaré qu'il était facile d'atteindre à la perfection morale. Un caractère noble et bien équilibré ne nous est pas donné à la naissance et n'est pas non plus le fait du hasard. On l'acquiert par des efforts individuels, en vertu des mérites et de la grâce du Christ. Dieu nous accorde les facultés. À nous de former notre caractère. Nous y parvenons au prix de luttes sévères avec le moi. Les tendances héréditaires doivent être combattues sans relâche. Il faut s'examiner attentivement, avec un œil critique, et ne faire grâce à aucun trait défectueux. Réflexion et action. La réflexion à elle seule ne suffit pas. Une action énergique ne suffit pas à elle seule. L'une et l'autre sont essentielles à la formation du caractère. Cultiver de bonnes habitudes mentales. Si nous désirons cultiver un caractère que Dieu puisse approuver, il nous faut acquérir de bonnes habitudes dans notre vie spirituelle. La prière quotidienne est aussi nécessaire à la croissance en grâce, et même à la vie spirituelle elle-même, que la nourriture temporelle est indispensable au bien-être physique. Nous devons prendre l'habitude d'élever souvent nos pensées vers Dieu par la prière. Si notre esprit vagabonde, il faut le maîtriser. Grâce à des efforts persévérants, l'habitude deviendra plus facile. Nous ne saurions un seul instant nous détacher du Christ sans danger. Nous pouvons jouir de sa présence à chaque pas, mais seulement en respectant les conditions qu'il a lui-même prescrites. Une ferme détermination, une intégrité sans faille, l'effort minutieux est nécessaire dans l'œuvre du développement du caractère. Il faut faire preuve d'une réelle détermination pour exécuter les plans du maître artisan. Les matériaux doivent être solides. Nulle négligence, nul travail douteux ne saurait être accepté, car il mettrait la construction en péril. Toutes les facultés de l'être doivent être mises en œuvre. Cela requiert la force et l'énergie de la nature humaine. Aucune énergie ne doit être gaspillée dans des questions sans importance. Il faut déployer des efforts sérieux, attentifs, persévérants, pour rompre avec les coutumes, les maximes et les relations du monde. Une réflexion profonde, une ferme détermination et une intégrité sans faille sont nécessaires. Maintenir les regards sur l'objectif, l'apôtre Pierre écrit, « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi à la persévérance à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. » Il ne s'agit pas de penser à tous ces échelons à la fois, et de les compter en partant. Mais si vous fixez les yeux sur Jésus, uniquement préoccupé de la gloire du Christ, vous ferez des progrès. Ce n'est pas en un jour que l'on atteint la mesure de la stature parfaite du Christ, et la personne défaillirait si elle pouvait voir à l'avance toutes les difficultés qui devront être surmontées. Il faut compter avec Satan, qui emploiera tous ses artifices pour détourner votre esprit du Christ. La fidélité dans les petites choses, message adressé à un jeune homme, à certains égards votre cas est semblable à celui de Naaman. Vous ne comprenez pas que pour atteindre à la perfection du caractère, vous devez consentir à être fidèle dans les petites choses. Bien que celles que vous êtes appelées à faire soient de peu de valeur à vos yeux, il s'agit de devoirs que vous devrez remplir aussi longtemps que vous vivrez. Si ces choses sont négligées, il en résultera une grande lacune dans votre caractère. Mon cher ami, vous devez apprendre à être fidèle dans les petites choses, sinon, vous ne pourrez pas plaire à Dieu. Vous ne sauriez gagner l'amour et l'affection si vous ne faites pas ce qui vous est prescrit, avec empressement et joyeusement. Si vous voulez que ceux avec qui vous vivez vous aiment, vous devez leur témoigner amour et respect. Le caractère doit être mis à l'épreuve, tout dépend des matériaux utilisés pour la formation du caractère. Le jour de Dieu tant attendu mettra bientôt à l'épreuve l'œuvre de tout homme. Le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. De même que le feu révèle la différence entre l'or, l'argent, les pierres précieuses, le bois, le foin et le chaume, de même le jour du jugement révélera les caractères, mettant en lumière la différence entre ceux qui sont formés à la ressemblance du Christ et ceux qui le sont à l'image du cœur égoïste. Alors, tout égoïsme, tout faux christianisme apparaîtra sous son vrai jour. Le matériau de pacotille sera consumé, tandis que l'or de la foi véritable, simple et humble, ne perdra jamais sa valeur. Il ne saurait être consumé, car il est impérissable. Une seule heure de transgression sera considérée comme une grande perte, tandis que la crainte du Seigneur se révélera être le commencement de la sagesse. La satisfaction de ses propres désirs périra comme du chaume, alors que l'or de la fermeté dans les principes, maintenu à tout prix, demeurera à jamais. Caractères déficients et changeants, les caractères formés au hasard des circonstances sont variables et discordants. Ceux qui les possèdent n'ont pas de but élevé dans la vie. Ils n'ont pas une influence ennoblissante sur le caractère des autres. Ils sont sans but et sans puissance. Comment affronter la critique? Nous pouvons nous attendre à ce que de faux bruits circulent à notre sujet. Mais si nous suivons le droit chemin, si ces bruits nous laissent imperturbables, les autres feront de même. Laissons à Dieu le soin de veiller sur notre réputation. Notre manière de vivre peut étouffer la calomnie, ce que ne feraient pas des paroles d'indignation. Que notre souci principal soit d'agir dans la crainte de Dieu et de montrer par notre conduite que ces bruits sont sans fondement. Nul plus que nous-mêmes ne peut salir notre caractère. Seuls les arbres vacillants et les maisons branlantes ont besoin d'être constamment étayés. Quand nous nous montrons si anxieux de préserver notre réputation contre les attaques de l'extérieur, nous donnons l'impression que celle-ci n'est pas sans reproche aux yeux de Dieu, et qu'elle a sans cesse besoin d'être raffermie. Le pouvoir de la volonté, vous ne pouvez dominer vos impulsions, vos émotions comme vous le désiriez, mais vous pouvez maîtriser votre volonté, et opérer ainsi un changement complet dans votre vie. En soumettant votre volonté au Seigneur, votre vie peut être cachée avec le Christ en Dieu et s'allier à la puissance qui est au-dessus de toute principauté et de toute autorité. Vous disposerez ainsi de l'énergie qui vient de Dieu et qui vous permettra de tenir ferme en vous appuyant sur sa force. Et vous aurez ainsi accès à une lumière nouvelle, à la lumière même de la foi vivante. Il y aura en vous une puissance, une ferveur et une simplicité qui fera de vous un instrument précieux entre les mains de Dieu. Impossibilité illusoire, que nul ne se déclare incapable de remédier à ses défauts de caractère. Si vous tirez une pareille conclusion, vous n'obtiendrez jamais la vie éternelle. Les impossibilités n'existent que dans votre volonté. Si vous ne voulez pas, vous ne pourrez pas vaincre. La difficulté réelle provient de la corruption d'un cœur non sanctifié et de l'insoumission à la volonté de Dieu. Pour le cœur régénéré, tout est changé. La transformation du caractère est pour le monde un témoignage de la présence du Christ en nous. L'Esprit de Dieu crée dans l'âme une vie nouvelle qui harmonise les pensées et les désirs avec la volonté du Christ. L'homme intérieur retrouve l'image de Dieu. Les faibles et les égarés montrent alors au monde que la puissance régénératrice de la grâce divine peut développer harmonieusement un caractère imparfait et le rendre exemplaire. Défaut héréditaire, chez les enfants et les jeunes, on a affaire à toutes sortes de caractères, et leurs esprits sont influençables. Beaucoup de nos jeunes qui fréquentent nos écoles n'ont pas bénéficié d'une éducation convenable à la maison. On a laissé certains d'entre eux agir à leur guise. D'autres ont été réprimandés et découragés. On a fait preuve de très peu de gentillesse à leur égard, et on leur a adressé très peu de paroles d'approbation. Ils ont hérité des défauts de caractère de leurs parents, et la discipline qu'ils ont reçue au foyer ne les a pas aidés à se forger un bon caractère. Les travers de caractère se renforcent avec le temps, les enfants apprennent des leçons qu'ils n'oublient pas facilement. Chaque fois qu'ils sont l'objet d'une contrainte inhabituelle ou qu'il leur est demandé de se livrer à une étude ardue, ils s'adressent à leurs parents mal avisés pour obtenir leur sympathie et leur indulgence. C'est ainsi que l'on favorise un esprit d'inquiétude et de mécontentement, que l'école dans son ensemble souffre d'une influence démoralisante et que le fardeau du maître est rendu plus lourd encore. Mais ce sont les victimes de la mauvaise éducation des parents qui en souffrent le plus. Les travers de caractère qu'une bonne éducation aurait corrigés sont voués à se renforcer avec les années, au point de nuire et peut-être de détruire les capacités de la personne concernée. Quand les enfants font la loi, dans certaines familles, les désirs de l'enfant sont des lois. On lui donne tout ce qu'il désire, et on l'encourage à ne pas aimer ce qu'il n'aime pas. Cette complaisance est supposée rendre l'enfant heureux. Mais c'est justement cela qui le rend agité, mécontent et contrarié de tout et de rien. La satisfaction de ses caprices a changé son appétit pour une nourriture saine et son désir d'employer convenablement son temps. Cette satisfaction a perturbé son caractère pour le présent et pour l'éternité. Nécessité de discipliner l'esprit, les enfants qu'on laisse agir à leur guise ne sont pas heureux. Le cœur insoumis ne dispose pas en lui-même des éléments nécessaires à sa satisfaction et à sa quiétude. L'esprit et le cœur doivent être disciplinés et soumis à une saine contrainte pour que le caractère soit en harmonie avec les lois bienfaisantes qui régissent notre être. L'agitation et le mécontentement sont les fruits du laisser-aller et de l'égoïsme. Si l'on n'y plante pas les graines de fleurs précieuses entourées de soins attentifs, le terrain du cœur, comme celui d'un jardin, produira des mauvaises herbes et des ronces. Il en est de l'âme humaine comme de la nature visible. Des répercussions durant la vie tout entière, par les pensées et les sentiments qu'il cultive durant ses premières années, chaque jeune détermine l'histoire de sa propre vie. Des habitudes correctes, vertueuses, acquises dans la jeunesse, deviendront une partie du caractère et influeront généralement sur l'orientation de l'individu pendant toute sa vie. Les jeunes peuvent devenir vicieux ou vertueux, selon leur choix. Ils peuvent aussi bien se distinguer par des actions authentiques et nobles que par de grands crimes et de la perversité. Une œuvre quotidienne, l'intelligence reçoit continuellement son empreinte au fil des occasions et des avantages, dont on tire plus ou moins de profit. Jour après jour, nous forgeons des caractères qui rangent les étudiants sous la bannière du prince Emmanuel ou sous celle du prince des ténèbres. Laquelle prévaudra ? La formation du caractère, s'occuper des esprits humains est une tâche bien délicate. La discipline qui s'impose pour l'un écraserait l'autre. C'est pourquoi les parents doivent étudier le caractère de leurs enfants. Ils ne doivent jamais faire preuve de brusquerie ni agir par impulsion à leur égard. J'ai vu une mère arracher quelque chose de la main de son enfant auquel il prenait un plaisir particulier, et l'enfant ne comprenait pas pourquoi on l'en privait. Le petit éclatait alors en sanglots, car il se sentait maltraité et blessé. Alors, pour arrêter ses pleurs, la mère lui infligeait une sérieuse correction, et apparemment, le conflit était réglé. Mais ce conflit avait laissé une marque sur l'esprit sensible de l'enfant, une marque qu'on aurait de la peine à effacer. Je dis à la mère, « Vous avez causé beaucoup de tort à votre enfant. Vous avez blessé son âme et perdu sa confiance. Je ne sais pas comment ce tort pourra être réparé. Cette mère était tout à fait mal avisée. Elle se laissait aller à ses sentiments et n'agissait pas avec prudence, elle ne comprenait pas le principe de cause à effet. Son comportement rigide, inconsidéré, avait éveillé les pires sentiments dans le cœur de son enfant. Agir par impulsion lorsqu'on dirige une famille est la plus mauvaise méthode qui soit. Quand les parents entrent ainsi en conflit avec leurs enfants, il s'ensuit une lutte parfaitement inégale. Combien il est injuste d'opposer l'expérience d'années de force et de maturité à la faiblesse et à l'ignorance d'un petit enfant. Chaque manifestation de colère chez les parents ne fait qu'attiser la révolte dans son cœur. Il faut bien plus qu'un seul acte pour former le caractère. Il faut des actes répétés pour que les habitudes soient inculquées et que le caractère soit stabilisé. Pour avoir un caractère chrétien, il est nécessaire d'agir comme un chrétien. Les chrétiens doivent être empreints de sainteté. Leurs actions et leurs impulsions doivent être inspirées par le Saint-Esprit. Persévérance, afin de parfaire un caractère chrétien, il est essentiel de persévérer dans le bien. Je voudrais inculquer à notre jeunesse l'idée de l'importance de la persévérance et de l'énergie dans l'œuvre de la formation du caractère. Il faut dès les premières années tisser dans le caractère des principes de stricte intégrité, si l'on veut atteindre un idéal élevé d'humanité. Que l'on se souvienne constamment que l'on a été racheté à un grand prix, et que chacun doit glorifier Dieu en son corps et en son esprit, qui lui appartiennent. L'exemple de Daniel et de ses compagnons, s'il est vrai que les parents sont responsables de l'empreinte qu'ils laissent sur notre caractère, comme aussi de l'éducation et de l'instruction qu'ils nous donnent, il n'en est pas moins vrai que notre état et notre utilité dans la vie dépendent, dans une large mesure, de notre comportement. Les avantages que Daniel et ses compagnons retiraient de leur première formation et de l'éducation qu'ils avaient reçue, n'auraient pas suffi à faire d'eux ce qu'ils sont devenus. Le moment vint où ils durent agir de leur propre initiative, leur avenir ne dépendant plus désormais que d'eux-mêmes. Ils décidèrent alors de demeurer fidèles aux instructions reçues dans leur enfance. La crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, était la base de leur grandeur. L'Esprit de Dieu fortifia toutes leurs bonnes intentions et toutes leurs nobles résolutions. L'enseignement du spiritisme, le spiritisme affirme que les hommes sont des demi-dieux qui ne sont pas déchus. Que chaque esprit se jugera lui-même, que la vraie connaissance place l'homme au-dessus des lois. Que les fautes commises ne sont pas blâmables. Car tout ce qui est bien et Dieu ne condamne pas. Il déclare que les plus vils des êtres humains sont au ciel et s'y trouvent exaltés. Il assure à tout homme. Ce que vous faites n'a pas d'importance, vivez comme vous voulez, le ciel est votre maison. Des foules d'hommes sont ainsi amenées à croire que la seule foi valable est le désir, que la vraie liberté, c'est la licence, que chacun n'a de compte à rendre qu'à soi-même. Obtenir la victoire. Les obstacles qui se dressent sur notre chemin doivent être affrontés et surmontés l'un après l'autre. La première difficulté vaincue, nous nous trouvons plus forts pour affronter la suivante, et chaque nouvel effort augmente notre aptitude au progrès. C'est en regardant à Jésus que nous devenons vainqueurs. Si nous nous laissons fasciner par les difficultés, et si nous fuyons le champ de bataille, nous nous affaiblissons et notre foi diminue. Gravir échelon après échelon, un pas après l'autre, c'est ainsi que les plus longues ascensions deviennent possibles, et l'on finit par atteindre le sommet. Ne vous laissez pas accabler en pensant à la somme de travail que vous devrez effectuer au cours de votre vie, car on ne vous demande pas de tout faire à la fois. Appliquez toutes vos facultés à l'œuvre quotidienne, profitant de chaque occasion. Soyez reconnaissant pour l'aide que Dieu vous donne et gravissez l'échelle, échelon après échelon. Souvenez-vous que votre vie est faite de jours consécutifs, que Dieu vous en donne un à la fois, et que le ciel prend note de la façon dont vous appréciez les privilèges et les occasions qu'il vous offre. Puissiez-vous si bien profiter de chaque jour qui vous est donné, que vous puissiez enfin entendre le Maître vous dire, « C'est bien, bon et fidèle serviteur ».